Nous lisons dans 2 Timothée, ce n'est pas notre passage de base. Notre passage de base, ce sera 1 Corinthiens au chapitre 12. Mais nous introduisons avec 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Il est dit ceci, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, il y a plusieurs caractéristiques des gens de la fin qui sont données. Mais nous allons nous arrêter sur un seul composant, un seul élément, au verset 2, « Car les hommes seront égoïstes ». Voilà ce qui est dit concernant la fin des temps. Les hommes seront égoïstes. Vous savez, dans le passé, il n'y avait pas comme nous avons aujourd'hui des pays très organisés comme ça, avec une police nationale, avec une électricité nationale. Dans le passé, les gens étaient obligés pour vivre de se mettre en groupe, en petit groupe si on veut dire. En petit groupe, 15, 20, 30 familles, parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication tels qu'on les a aujourd'hui. Il n'y avait pas les moyens de télécommunication tels qu'on les a aujourd'hui qui peut faire qu'un gouvernement dans une capitale puisse diriger toute une nation. Il n'y avait pas ça. Il y avait des grands empires, mais ces grands empires et royaumes se déclinaient en petits royaumes. Si vous souvenez, vous entendez le nom de comtes, de duc, voilà, c'était, oui, il y avait un grand pays, un royaume, mais il y avait des comtés, il y avait des petites parties dirigées par des gens, parce que c'était nécessaire à cause du manque d'infrastructures, l'homme était poussé à vivre en groupe. Et même les États-Unis ont été formés comme ça. Les gens venaient dans un endroit où il n'y avait pas encore l'État. Les États-Unis, il y avait des endroits où c'était vierge par rapport aux colons. Il y avait peut-être certains Indiens, mais il n'y avait pas de Blancs, il n'y avait pas de colons. Et quand ils arrivaient, ils étaient obligés de se mettre en groupe pour se protéger des Indiens, pour se protéger des animaux, pour bâtir, pour faire des choses. Ils se mettaient en groupe. Mais aujourd'hui, un homme n'a plus besoin du groupe tel qu'on en avait besoin autrefois. Aujourd'hui, il suffit qu'on ait un bon travail, un bon salaire, on peut vivre seul. Parce qu'on a une électricité nationale, on a des routes nationales, donc l'État a muni le pays des moyens qui font que l'homme peut vivre sans son voisin. Il y a les téléphones, un incident, on appelle. On n'a pas besoin du voisin pour aller avertir, nous-mêmes on avertit. Et l'homme devient de plus en plus égoïste. Il devient de plus en plus égoïste. Il parle toujours à la première personne. Je, je, je. Le grand problème, c'est quoi? Que le monde devienne comme ça, on comprend. Mais que l'Église devienne comme ça, on ne comprend pas. Dieu ne nous n'a pas sauvés pour vivre seul. Il ne nous a pas sauvés seuls. Même si on est le plus grand apôtre, nous entendons Paul dans Éphésiens 6. Paul est en train de dire aux Éphésiens, « Priez pour moi afin que lorsque je vais annoncer l'évangile, cela soit fait d'une manière claire. Paul, qui est parti au troisième ciel, il avait besoin de la communauté. Il avait besoin des autres enfants de Dieu. Aujourd'hui, le terme qu'on entend le plus dans les milieux chrétiens, c'est « mon ministère, bien-aimé ». Non, le Seigneur veut que ce soit lui qui soit le terme le plus utilisé, Jésus. Le Seigneur, le Père. Le Seigneur, lorsqu'il s'en allait, il a dit « ceci est mon corps livré pour vous ». Je livrais mon corps pour vous. Bien-aimé, quand il a livré son corps, il n'a pas livré pour que chacun prenne sa part et s'en aille. Il a livré afin que son corps reste son corps avec les enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous tous, avec une part de Jésus, nous formons encore le corps de Jésus. Le corps ne peut pas être divisé. Mais nous vivons un temps où l'égoïsme ambiant est entré dans l'Église. L'égoïsme, c'est ce qui fait que des lois mauvaises passent. Parce qu'il y en a qui sont contre ces lois. Mais ils se disent, si je manifeste mon opposition, ça va créer des troubles. Ça va créer des difficultés. Moi, je veux vivre en paix. Aujourd'hui, un danger peut vous arriver et personne ne vous prévient. Alors qu'il est en train de voir le danger arriver. Certains même se disent, mais si je le préviens et que ça ne se passe pas comme j'ai prévenu, il va après s'énerver sur moi. Je me souviens un jour, on était dans une boutique et je donnais le biberon à mon fils qui était bébé encore. J'avais mal fermé la baguette. Ben, le lait coulait sur lui. Mais les gens qui étaient en face de moi, voyez. Mais je crois que dans leur tête, ils se sont dit, si on ne veut pas le déranger. Et si on le dérange, nous aussi, on a des embêtements. Parce qu'il peut se fâcher aussi. Et ils vivaient comme ça. Ils ont laissé. Mais je voyais bien qu'ils me regardaient. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils regardent? J'ai vu que le lait coulait. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Mais quel égoïsme. Chacun pour soi. Le problème, c'est que Satan est en train de a fait entrer ça aussi au milieu des enfants de Dieu. Chacun veut bosser pour lui-même. Et surtout dans les milieux francophones. Dans les milieux anglophones, naturellement, c'est des gens qui aiment jouer en équipe. Parce que les anglophones sont très attachés au résultat final. Ils sont moins attachés à la gloire individuelle. Ils sont très attachés au résultat final. Mais le francophone est très attaché à la gloire personnelle. Et nous avons du mal à vivre réellement ce qu'est l'Église, le corps du Christ. Parce que l'égoïsme s'est installé. On ne pense pas aux autres. On ne pense pas au corps du Christ, mais on pense à sa propre vie. Comment ne pas s'étonner qu'il n'y a plus d'évangélisation? Parce que quelqu'un, il passe son temps à prier pour sa voiture, à prier pour avoir une maison, à prier pour avoir des enfants, à prier pour se marier. Il n'a pas le temps de penser à sauver un perdu. Les gens pensent à eux-mêmes. On prie pour avoir une grande salle. Donc toujours, tout est tourné vers la personne, vers l'individu. Mais ce n'est pas tourné vers le Seigneur. Or, il est écrit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aujourd'hui, on s'aime soi-même, malheureusement. Après, c'est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu considère que s'aimer soi-même, c'est naturel. Donc, on n'a plus besoin de faire d'efforts encore pour s'aimer. C'est naturel, c'est pourquoi le deuxième commandement dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Intéresse-toi à ton prochain. » Parce que naturellement, tu t'intéresses à toi. Alors, maintenant, consciemment, intéresse-toi à ton prochain. Consciemment, considère que tu es dans un corps, tu es dans une équipe. Mais l'égoïsme s'est installé, comme ça s'est installé dans le monde. Toutes les lois que nous voyons, c'est des lois égoïstes en réalité. On dit, bon oui, c'est des lois mariage pour tous, mais c'est des lois égoïstes. Donc il y a des gens qui veulent que leur cause passe, même si ça va déranger les autres. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est eux. Il y a des gens qui veulent avoir un enfant, même s'ils doivent passer par des méthodes qui vont faire de l'enfant une marchandise. Voilà. C'est eux. Il y a des gens qui veulent élever un enfant alors qu'ils savent bien qu'ils vivent une relation qui n'est pas naturelle. Mais le problème, ce n'est pas l'enfant. Le problème, c'est eux. Nous vivons des temps où l'homme ne voit que lui-même. Mais bien-aimé, le Seigneur nous a dit dans Jean 12, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Celui qui la perd la sauvera. Je nous donne à tous un conseil gratuit. Arrêtons avec l'égoïsme. Le fait de penser qu'à soi. Commençons à penser au Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Arrêtons avec les solos. Les solistes ne peuvent pas faire un chant. Donc quand il y a un chant, tout le monde ne peut pas faire solo. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent accompagnement et autres. Le soliste ne vient que rajouter un tout petit peu. Et dans l'église de Dieu, il y a beaucoup trop de solistes aujourd'hui. Tout le monde veut briller pour lui-même. Ce n'est pas biblique. Nous lisons 1 Corinthiens 12. On va lire tout le chapitre. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous retenons trois choses dans cette première partie. Il y a diversité des dons. Dieu a placé plusieurs dons dans ses enfants. Et le verset 7 nous dit, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour qu'on se sente fort personnellement. C'est pour l'utilité commune. Dieu a placé le don qu'il t'a donné. En toi, c'est pour servir aux autres. Ce n'est pas pour que tu te dises, je peux me débrouiller seul, bien que ça soit très faux, et que tu vas mourir en réalité. C'est ce qu'on va lire. C'est ce que Jésus dit dans Jean 15. Une branche qui est coupée, elle sèche. Même si elle est la plus belle des branches de l'arbre, du moment qu'elle est coupée de l'arbre, c'est fini. Une fleur, même si elle est la plus belle de l'arbre, lorsqu'elle est arrachée de l'arbre, c'est fini. Pendant 4 jours, elle va encore briller. Mais le 5e jour, il y aura des problèmes déjà. Pour l'utilité commune. Dieu t'a donné un don, c'est pour tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, Dieu vous te donne un don pour tout le monde. Mais si les gens ne reconnaissent pas ce don-là, pourquoi toi, tu vas vouloir forcer? tu n'as pas à forcer. Attends jusqu'à ce qu'ils auront envie de ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les milieux chrétiens? Des gens qui veulent s'imposer. Prophètes, apôtres, pasteurs, qui veulent s'imposer dans un don quelconque pour dire qu'il faut. Mais si c'est pour nous, si c'est pour notre utilité, nous, on n'a pas encore jugé ça utile. Attends qu'on juge ça utile. Le don, ce n'est pas pour toi. Le don, c'est pour nous. Donc, Dieu t'a donné le don pour nous. Mais attends que nous, on ait besoin de ça. Si nous, on n'a pas encore besoin de ça, concentre-toi sur Dieu. Grandis avec Dieu. Aime ton Seigneur. Aime ton Dieu. Mais ne lutte pas pour que ton don soit accepté. Laisse les autres manifester l'envie de se voir servir par toi. Puisque le don t'a été donné pour les autres, ça ne t'a pas été donné pour toi. C'est ce qui est écrit. Pour l'utilité commune et non pas pour une ambition personnelle. Un autre enseignement, c'est le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dieu distribue les dons comme il veut. C'est-à-dire que la décision vient de lui. Personne ne peut imposer à Dieu de lui donner un don quelconque. C'est lui qui a décidé. D'où la vanité d'être jaloux. À quoi ça sert d'être jaloux puisque c'est Dieu qui donne? La jalousie ne changera pas les choses. À quoi ça sert aussi de se vanter puisque c'est Dieu qui t'a donné? Comme notre frère Paul le dit encore, je crois dans 2 Corinthiens 4, dans 2 Corinthiens 3, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables, 2 Corinthiens 3, 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu puisque c'est Dieu qui donne. Pourquoi me vanter puisque ça ne vient pas de moi, c'est un don de Dieu. Pourquoi vouloir m'imposer puisque ça vient de moi? Ça vient de Dieu. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Si aujourd'hui, tu estimes que le don de l'autre est supérieur, le tien inférieur, tu es en train d'accuser le même esprit que tu vois glorieux chez l'autre. Tu l'accuses parce que tu considères que ce qu'il fait chez toi est nul. Or, c'est le même esprit. Donc, à chaque fois que tu considères que le don que tu as est inutile ou peu important, tu attaques le même esprit qui a donné le don à celui que tu envies. C'est le même esprit qui opère tout cela. Donc s'il a jugé de me donner le don A et à l'autre le don B, il l'a fait pour l'utilité de nous tous. Et je dois m'en réjouir puisque ça va profiter à moi aussi. Cette affaire nous est très, très importante. Ça veut dire que plus l'autre est puissant dans son don, plus moi je serai béni. Parce que le don qu'on a donné à l'autre, c'est pour moi qu'on lui a donné. Donc je ne vois pas pourquoi je vais envier son don. Je ne vois pas pourquoi je vais me fâcher de voir que lui, il brille plus que moi. Parce que s'il brille, c'est pour moi qu'il brille. C'est pour me soutenir, pour m'aider. Nous continuons. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Un autre enseignement. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Christ nous a sauvés pour former un corps. Que personne ne te trompe, ou bien que tu ne te trompes pas toi-même par des logiques personnelles, en pensant que tu es fort par toi-même, tu te trompes. La force vient du fait qu'on est dans le corps. Seul, on n'est pas fort. On a besoin de rester dans le corps. Car si on n'est plus dans le corps, on n'est plus en Christ. Parce que Christ, c'est le corps. Vous savez, il y a dans 1 Corinthiens, les Corinthiens commençaient à... D'ailleurs, c'est à cause de ça que Paul écrit tout ça. À dire, moi je suis de Pierre. L'autre dit, moi je suis d'Apollos. D'autres encore disaient, nous on est de Jésus. Alors, on a l'habitude quand on lit ce passage à dire, tiens, ceux qui disent, ils sont de Jésus, ils sont les meilleurs. Non, puisqu'ils sont critiqués aussi par Paul. Qu'est-ce que Paul veut dire? Quand ils disent, nous, on est de Jésus. Ils veulent dire, vous, vous n'êtes pas de Jésus, nous, on est de Jésus. Vous, vous êtes de Paul, de Pierre, nous, on est de Jésus. Ils excluent les frères qui sont dans le même corps de Jésus que eux. Mais ce n'est pas parce qu'ils font des erreurs en pensant qu'ils sont de Pierre, qu'ils sont de Paul, qu'ils ne sont plus de Jésus. Ils restent de Jésus. Maintenant, quand on dit, nous, on est de Jésus, par rapport à d'autres qui disent qu'ils sont de Pierre, c'est comme si on les excluait. Non! On a à dire, soyons tous de Jésus. Voilà. Soyons tous de Jésus. Ce n'est pas parce que le frère est dans l'erreur qu'il n'est plus de Jésus. Il peut être dans l'erreur et continuer à rester dans le corps du Christ parce qu'il n'a pas renié sa foi, il n'a pas renié Jésus. Après ça, c'est une autre discussion. Mais retenons, bien-aimés, que nous n'avons pas à faire du sectarisme dans la pensée, à dire « moi ». Non, nous sommes le corps du Christ. Celui qui s'exclut du corps du Christ, il s'exclut de Jésus lui-même, puisque Jésus, c'est son corps. Si tu t'exclus du corps du Christ, tu t'exclus de Jésus lui-même. Et il y en a qui vont dire, mais moi, je ne me réunis plus avec les autres. Je prie tout seul et Dieu me parle la nuit. Bien-aimé, Dieu ne se contredit pas. C'est lui qui a dit que le corps, c'est Christ. C'est lui qui a dit dans 1 Corinthiens 12, on va lire, on va y arriver, que quand on s'est convertis, on a été baptisés pour former un corps. Prétendre cela, c'est très faux. Et en réalité, on se rend compte que beaucoup, dans de telles conditions, ont plutôt des visions diaboliques qui pensent être de Dieu. Le Seigneur est toujours en accord avec sa parole. Il est écrit, maintenant au verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Voilà ce que notre frère Paul dit. Il dit que quand on a été sauvés, on a été baptisés dans un même esprit pour former un corps. Dieu nous a mis ensemble. C'est inévitable. Vouloir faire autre chose, c'est sortir de la parole de Dieu. Et maintenant, quand je suis en train de parler, je ne parle pas d'église bâtiment. Je parle d'église enfant, groupe d'enfants de Dieu. Et c'est tous ces groupes-là. Au milieu d'eux, il y a des chrétiens qui forment dans le monde entier le corps du Christ. Donc un homme ne peut pas dire « je ne me réunis plus avec les bien-aimés, mais je suis quand même dans le corps du Christ ». Il est en train de se contredire. Parce que le corps du Christ se compose de ces petits groupes-là qui se réunissent pour la gloire de Dieu. Je vois mal, bien-aimé, un homme dire « je suis d'une famille ». Alpha, et quand il y a la réunion de la famille Alpha, il n'est jamais là. Donc on va se poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment de cette famille-là? Lorsqu'on est d'une famille, issu d'une famille, je vois mal que pendant 20 ans, on n'appelle pas ses frères et sœurs. Est-ce qu'on est vraiment dans cette famille-là? Non, il y a un problème. Donc, quand nous avons été sauvés, c'était pour former un même corps. Arrêtons de raisonner solo, de raisonner individualistement. Restons dans la logique de Dieu. Nous devons raisonner ensemble, réfléchir ensemble dans la logique de l'ensemble. L'individualisme conduit à la mort, bien-aimés. Et le but du diable, c'est de nous séparer. Et quand il nous sépare, il peut maintenant s'occuper de nous individuellement, sans l'aide des autres. Et nous sommes faibles sans les autres. Et il peut nous détruire facilement. Ce n'est pas parce qu'on se réunit avec les autres qu'on est forcément ensemble avec les autres. Tout commence dans la pensée. Si dans la pensée on n'est pas avec les autres, même si physiquement on est ensemble, on n'est pas ensemble en réalité. Donc il faut changer la pensée, comprendre comment Dieu conçoit son Église. Il conçoit son Église comme un corps composé de plusieurs membres. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Non! L'oreille est dans le corps. Même si elle veut s'agiter pour refuser ça, elle est toujours dans le corps. À moins qu'elle soit coupée. Mais à force de refuser, on finit par être coupé. Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Encore cette exhortation. C'est Dieu qui a voulu. Ce n'est pas le frère qui a décidé d'être ancien. Ce n'est pas la sœur qui a décidé d'être diaconesse. C'est Dieu qui a voulu. Il est écrit, toute autorité vient de Dieu. Maintenant, à chacun de défendre le fait que Dieu l'a établi. Mais commencez à vouloir changer les choses. Parce que notre intelligence nous dit le contraire. On se trompe. C'est Dieu qui a voulu les choses. C'est Dieu qui a voulu qu'un tel puisse prophétiser. Qu'une telle autre personne puisse prêcher. C'est Dieu qui l'a voulu. On ne peut pas s'imposer parce qu'on est éloquent. Non, c'est Dieu qui décide. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Il est écrit. Dieu distribue ses dons comme il veut. Et les dons, ce n'est pas seulement les dons spirituels, mais c'est les appels, c'est les autorités, c'est les talents aussi, c'est les dons que Dieu a donnés. Mais pour l'utilité commune, nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience que nous avons besoin dans notre famille, dans nos familles, nous avons besoin que nos enfants soient à Christ pour que les dons qui est prévu en eux pour nous aider à nous puissent se manifester. C'est pourquoi nous devons lutter, prier, agir, de sorte que dans nos maisons, les enfants soient à Dieu, la femme à Dieu, le mari à Dieu. Ainsi, nous vivons déjà un échantillon des dons que Dieu a donné à son Église, en notre faveur. Maintenant, vouloir à tout prix que ce que toi tu es puisse dominer sur les autres, Paul dit, c'est pas normal. Si tout le corps était œil, où serait lui? Mais non, Dieu a voulu faire le miracle d'amour, mettre des membres différents dans un même corps et les faire entendre. C'est ça le miracle d'unité de Dieu, le miracle d'amour de Dieu. Le miracle, ce n'est pas seulement ressusciter un mort, guérir un malade. Le miracle, c'est faire vivre des gens qui sont différents ensemble pour un même objectif. C'est ça le miracle de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Dans le monde, on dit diviser pour mieux régner. Ça, c'est le système du diable. Diviser pour mieux régner. Mais avec Dieu, c'est l'unité pour que sa gloire se manifeste. Nous continuons. Verset 20, Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Une réalité que nous donne ce texte, c'est la suivante. C'est que, puisque tous nous sommes plusieurs membres dans un corps, la forme de l'autre, j'en ai besoin. J'ai besoin que le bras soit en forme. J'ai besoin que les jambes soient en forme, moi qui suis l'œil. Parce que si un danger arrive, moi l'œil, je ne peux pas fuir. C'est les jambes qui vont me faire fuir. Ce passage nous enseigne que nous avons besoin que l'autre soit fort. Il ne suffit pas que nous, on soit fort. L'autre doit être fort. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres, travailler les uns pour les autres, soutenir les uns les autres, parce que la force de l'autre sera aussi ma force. Et on a oublié ça, parce qu'on conçoit le christianisme comme une sorte de ticket qu'on a reçu. Vous savez, quand on arrive au cinéma ou bien dans un stade de football, le ticket, il est individuel. Tu entres pour toi-même. Mais ce n'est pas ainsi avec Dieu. Le Seigneur nous a unis afin que nous ayons besoin les uns des autres. Donc la bouche ne peut pas dire « je n'ai pas besoin de l'œil » et vice-versa. Et Paul dit que d'ailleurs les membres qui paraissent faibles sont vraiment nécessaires. Sont vraiment nécessaires. Regardez un membre comme les cheveux. On peut dire, mais quel rôle ça joue? Si je veux manger, je n'ai pas besoin de mes cheveux. Si je veux courir, je n'ai pas besoin de mes cheveux. Si je veux nager, si je veux étudier, je n'ai pas besoin de mes cheveux. Mais je peux vous poser une question. Entre le cerveau et les cheveux, on dépense le plus pour quoi? Pourtant, c'est le cerveau qui fait tout. Ce n'est pas pour attaquer les sœurs, mais entre le cerveau et les cheveux, on dépense plus pour les cheveux. Qui est-ce qui va acheter des vitamines à la pharmacie pour stimuler son cerveau? Personne. Mais quel produit on n'achète pas? Quelle pommade ne se fait pas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les cheveux? Les salons de coiffure. Ça coûte combien, moi, j'ai été 50 euros peut-être. Je n'y suis jamais allé parce que c'est trop cher. Mais tout ça pour les cheveux, alors que ça ne sert à rien dans la vie de tous les jours, les cheveux. Ça ne sert à rien. Et c'est ce que Paul nous dit, mais pourtant les membres les plus faibles sont les plus nécessaires. Parce qu'il y a une utilité. Parce que sans les cheveux, on ne te voit pas. Et les perruques sont vendues, tout ça. Parce que les cheveux ont une utilité. C'est pourquoi nous ne devons jamais rire des membres faibles. Nous moquer des membres faibles. Tout est important, même si nous, on ne voit pas. C'est Dieu qui nous informe que les membres qui paraissent faibles sont les plus importants. Ce n'est pas le pasteur qui est le membre le plus important, c'est les membres qui paraissent les plus faibles. C'est eux qui sont les plus importants. Et peut-être c'est toi, mais tu n'en vis que le micro. Alors que à ton poste, c'est toi qui es peut-être le plus important. Mais ton rêve, c'est prêcher devant un stade, dans un stade. Non, bien-aimé, lorsque tu aimes le Seigneur, tu es très important. Peut-être c'est toi qui es humble. Vous savez, la personne qui prêche, eh bien, il a déjà une certaine récompense sur terre. Mais toi qui n'es pas vu, toute ta récompense est entre les mains de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ça ta récompense. Tu es béni, bien-aimé. Il ne faut pas envier bêtement les choses. On vient de lire, ce n'est pas moi qui dis, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ce n'est pas moi, c'est écrit. Vous voyez comment à chaque fois Dieu confond l'humanité. Il a sauvé les Juifs par Esther. les Juifs devaient être totalement éliminés. Hein. Il a sauvé, mais c'est Esther qui a risqué sa vie pour que les Juifs soient sauvés. Aujourd'hui, quand on fête Purim, c'est cette fête-là en Israël, vous savez qui est-ce qu'on célèbre le plus? C'est Mardoché. Parce que les hommes, c'est les hommes qui dirigent le monde. Au lieu de célébrer Esther, ils célèbrent Mardoché. Mais Mardoché n'a pas risqué sa vie, c'est Esther qui a risqué sa vie pour affronter le roi. Même si l'initiative c'était de Mardoché, mais c'est Esther qui a risqué sa vie. Qui nous a amené le sauveur? C'est Marie. C'est par elle que Dieu est passé pour nous amener le Seigneur et le Sauveur, notre Dieu, Jésus. Mais à l'époque, qui pouvait regarder Marie, considérant que Marie est importante? Personne. Qui est-ce qui était regardé? Les pharisiens habillés en tenue de luxe. Mais nous, aujourd'hui, nous savons qu'à l'époque de Marie, c'était elle l'humain le plus important. Mais eux, quand elle n'était pas encore enceinte, ils ne savaient pas. Ah, ben c'est une femme de tel village. C'est une femme de tel village. Qui pouvait même la connaître? Mais Dieu la connaissait. Et si Marie avait douté, avait refusé, on n'aurait peut-être pas eu de sauveur jusqu'à aujourd'hui. Mais elle a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais est-ce que, vous savez, Dieu se moque de nous parce que avant Marie, il y a un monsieur qui a douté, hein, qui était un sacrificateur, Zacharie. Lui, on lui dit, mais c'est comment? Tu vas avoir un enfant, mais ah non, c'est pas possible, je suis trop vieux. Dieu se fâche même, allez, il le rend muet. Pourtant, lui, il était censé connaître la parole plus que Marie. Il était censé enseigner aux gens. C'est lui le sacrificateur. En plus, il était très âgé. Donc il avait de l'expérience. Il ne pouvait pas dire qu'il ne connaissait pas Dieu. Il avait tout pour lui, pour qu'il soit un homme qui dise oui au Seigneur dès que le Seigneur parle. Mais quand le Seigneur a parlé, Zacharie a refusé. Allez, tu seras muet. Quand on a parlé à Marie, Marie a juste demandé bon, la façon dont ça va se faire. Elle n'a pas douté. Elle a voulu savoir la procédure. Dieu a dit, bon, c'est le Saint-Esprit qui te couvrira. Voilà la manière dont ça va se faire. Ah d'accord, bon, qui soit fait selon ta volonté. Je sais qu'on peut me qualifier de prostituée, on peut me qualifier de tout ce qu'on veut, mais c'est la volonté de Dieu, j'accepte. Et aujourd'hui, on a le sauveur de l'humanité, Jésus. Bien plus les membres les plus faibles sont nécessaires. Voilà ce qui est dit. C'est pourquoi il faut respecter tout chrétien. Tout chrétien doit être respecté. Même s'il ne paraît pas brillant, il est très important aux yeux de Dieu. Il y en a qui sélectionnent, qui respectent. Ce n'est pas biblique. Verset 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous savez combien de fois, dans beaucoup de situations, je me suis dit, « Ah Seigneur, si je pouvais être juste un chrétien alpha, je serais tranquille en ce moment. » Quand tu es dans l'avion, les turbulences commencent, je dis, « Seigneur, tout ça, c'est parce que je suis pasteur que je voyage comme ça. » Là, je commence à m'imaginer dans le salon assis tranquillement. Mais là, à cause de la mission du Seigneur, tu es obligé d'affronter les avions, d'affronter les turbulences. Attention, bien-aimé, il ne faut pas envier n'importe comment. La réalité, c'est ce que Dieu nous donne. Il nous dit que les membres les plus faibles, ce que vous pensez être honoré là, c'est les membres les plus faibles. C'est les membres qui sont dans les positions les plus difficiles. Vous regardez, vous dites, il est honoré. Mais la Bible nous dit que les membres qui sont honorés sont les membres qui sont dans la situation les plus difficiles. C'est pourquoi ils sont honorés comme ça, parce qu'ils sont dans une situation de faiblesse. Et c'est la vérité, bien-aimé. Vous imaginez Moïse devant la mer Rouge? Qui peut prendre cette place-là? Devant la mer Rouge, il y a toute une population. Les gens ont laissé leur maison, ils ont tout laissé, ils ont même bravé Pharaon pour, parce que toi, tu leur as dit, tu les amènes au salut. On arrive là, on devant la mer Rouge. Qui peut prendre la place de Moïse entre nous là? Dire, j'aurais aimé être à la place de Moïse en ce moment-là. Qui était plus faible, Moïse ou le peuple? C'est Moïse qui était plus faible. Tu as entraîné les gens dans une logique et tu te retrouves maintenant devant la mer Rouge. Tu te dis, mais il y en a qui ont laissé maisons, qui ont laissé des jardins, qui ont laissé des chariots, qui ont laissé du bétail. Parce que moi, je leur ai promis le salut, maintenant on se retrouve devant la mer Rouge. Qui est faible en ce moment-là? Quand les gens commencent à crier, nous avons besoin de l'eau. Qui était faible en ce moment-là? C'est Moïse. Tu as amené les gens dans le désert, mais donne-leur maintenant de l'eau. Les gens étaient tranquilles. C'est lui qui nous a amenés. Moïse, c'est comment? L'eau. Et il rentre chez lui. Il discute avec sa femme. En tout cas, Moïse, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Mais Moïse est là. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as entraîné à amener des gens comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Moïse est là en train de crier. Qui est faible, bien-aimé, en ce moment-là? C'est Moïse qui est faible. Il ne faut pas se tromper. Beaucoup se trompent. Ils cherchent des postes bêtement. Qui est faible en ce moment-là? Qui est faible? Qui était à la croix? Est-ce que c'est toi? C'est Jésus qui était à la croix. Et qui était faible en ce moment-là? Qui était fatigué au point que c'est Simon de Cyrène qui a porté sa croix? C'est Jésus. Attention. Les membres qui semblent être honorés. Aujourd'hui, on honore Jésus. Ah, on chante Jésus et tu peux l'envier. Mais qui a été faible à la croix? C'est lui. Mais qui est critiqué par tous les païens? C'est Jésus. Essayez de dire Jésus quelque part. On va sortir une injure. Mais si on va dire Joseph quelque part, qui va sortir une injure? Quand on dit Jean-Claude quelque part, qui va sortir une injure? Mais dès que tu tues Jésus, allez, les critiques commencent. Il a épousé Marie-Madeleine, il a fait ceci. Voilà, toutes sortes de critiques. Qui est plus critiqué que Jésus au milieu de nous? Qui est faible dans ce cas-là? C'est Jésus. Attention, envier les honneurs. Les membres qui semblent les plus honorés sont les plus faibles. Mais il faut grandir pour comprendre ces choses-là. Et quand toi, tu sembles comme déshonoré, Dieu te dit, mais tu es béni. C'est toi qui es béni. C'est toi qui es béni. Tu n'as pas affronté la mer Rouge. Tu n'as pas entraîné 1000 personnes dans une vision. C'est toi qui es béni. Quand quelqu'un arrive au moment de prêcher, ben il n'a plus, il n'y a rien dans sa tête. Qui est faible en ce moment-là? Nous, on a vu des gens commencer à raconter leur promenade avec leur femme parce qu'il n'y a plus rien à prêcher. Il ne faut pas envier pour envier. Les membres, comme il est écrit, et ceux que nous estimons, verset 23, être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Vous savez, il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Quand vous lisez l'Épître aux Corinthiens, encore le 2 Corinthiens, au chapitre 4, Paul explique encore la même chose. Il dit que nous, les apôtres, nous sommes les rebuts de la société. On nous piétine à gauche, à droite. Paul a affronté les bêtes à Éphèse pour l'Évangile. On nous piétine, nous sommes mis à mort chaque jour pour que vous, vous ayez la vie. C'est ce que Paul explique. Et qui est faible en ce moment-là? C'est lui, Paul. Dieu nous montre par là que celui qui semble être honoré peut-être par un don, c'est celui-là qui est le plus faible. Parce que ce don-là vient du ciel et lui n'est que frêle. Il est petit. Il pleure toujours devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui s'attendent à lui et lui, il n'a rien. Il faut que Dieu toujours donne. Qui est faible? C'est ce monsieur-là. Ce n'est pas celui qui attend tranquillement. Il sait que lui, c'est un consommateur, on vient lui donner. Mais c'est celui qui doit donner alors qu'il n'a rien, tout vient de Dieu. Donc il doit pleurer encore auprès de Dieu pour qu'il joue son rôle. Verset 25, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Quand on comprend ces choses-là, il n'y a pas de division. Au contraire, on est content qu'il y ait beaucoup de prédicateurs. Comme ça, moi, j'ai le temps de prêcher aux gens de mon quartier. J'ai le temps de m'occuper d'autres choses. Il y a beaucoup de prédicateurs. Donc, j'ai le temps de changer de ville pour aller prêcher. Il y a beaucoup de dons spirituels. Donc, je serai édifié par beaucoup de personnes. Comme ça, il n'y a pas de division. On sait qui est réellement faible et qui est fort. Celui qui paraît honoré, c'est celui-là, en réalité, qui est le plus faible. Dès qu'on comprend ces choses, il n'y a plus de division. Chacun aime ce qu'il est. Voilà. Parce que c'est un, c'est Dieu qui l'a voulu. Deux, le poste de l'autre n'est pas toujours le bon pour nous. Parce qu'on n'est pas travaillé pour cela. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Si un membre souffre, tous les autres vont souffrir. C'est pourquoi on ne doit pas être dans la joie lorsqu'on apprend qu'un chrétien est tombé ou bien un chrétien qui avait beaucoup parlé se retrouve en difficulté. Non, du moment qu'il est enfant de Dieu, sa souffrance finira par être la nôtre. Vous savez, nous qui voyageons beaucoup pour annoncer l'évangile, on expérimente cela. Il y a des endroits où il y a des chrétiens qui ont fait des dégâts. Quand toi, tu viens, ton travail est rendu difficile. Tu as beau dire que ce n'était pas toi, mais il faisait partie du corps. Et à cause d'eux, toi aussi, tu souffres. À cause de leur souffrance, toi aussi, tu souffres. C'est pourquoi une vraie église doit être en connexion avec les chrétiens persécutés dans le monde. Parce que leur souffrance est notre souffrance. Tandis que notre joie, comme Richard Rembrandt disait quand il était en prison, il dit « Je me réjouis de ce que je souffre ainsi. Et je me réjouis aussi du fait que le chrétien américain est en train de manger une grosse omelette. » Parce que c'est la grâce de Dieu qui lui fait manger une grosse omelette et c'est la même grâce de Dieu qui me fait retrouver en Roumanie en prison. Il avait compris ça et il se réjouissait. Il n'était pas là à dire « Ah, les chrétiens d'Occident sont paresseux, ils sont à l'aise. » Vous savez, quand on est dans ces pays-là, les chrétiens qui ne comprennent pas le passage qu'on vient de lire, beaucoup critiquent les chrétiens de France, les chrétiens d'Angleterre, les chrétiens d'Allemagne. Ah, ils sont là, ils mangent bien, mais ils font rien du tout. Mais vous savez, dès qu'on les amène ici, 6 mois plus tard, ils deviennent comme les chrétiens de France aussi. Puisqu'en réalité, le chrétien de France, c'est un humain comme le chrétien de Chine. C'est la grâce de Dieu qui a fait que le chrétien de Chine soit réveillé avec les persécutions. Le chrétien de France aussi a besoin de la grâce de Dieu. Mais si tu crois que juste parce que moi j'ai expérimenté la persécution en Chine, en France je serai efficace parce que là-bas il n'y a pas de persécution, tu te trompes. Tu es un humain comme nous tous. Peut-être nous on serait à ta place là-bas en Chine, on serait mieux encore que toi. Mais c'est parce qu'en France on est confronté aussi à des démons, à des puissances qui font qu'on est peut-être fatigué aussi. Et donc quand toi tu viendras, tu expérimenteras les mêmes combats. Et comme tu es un humain, tu as besoin de Dieu. Mais si tu crois que ton expérience de ton pays de persécution, c'est ça qui va te donner la force, tu te trompes. C'est Jésus qui donne la force. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui est notre force. Et quand il permet qu'on ait des expériences, ça devient utile quand on les utilise sous sa conduite et non pas quand on pense que c'est une force pour nous. C'est cela, bien-aimés. Nous devons nous réjouir de voir que le chrétien d'un pays prospère. On ne doit pas critiquer en disant « Ah voilà, c'est facile là-bas. Hein. C'est pourquoi ils font ça. » Non, 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 bien-aimé, tu ne sais pas. Peut-être que toi, tu serais là-bas, tu ne ferais rien du tout non plus. Réjouissons-nous de la prospérité des chrétiens, de gauche à droite, et compatissons avec ceux qui souffrent. Considérons aussi que c'est notre souffrance à nous. On aurait pu se retrouver à leur place. C'est important qu'il y ait cette relation avec les chrétiens du monde entier. Là où Dieu fait des miracles, des merveilles, on bénit le Seigneur. On ne doit pas commencer à lutter pour qu'on fasse comme eux exactement, non. On doit dire, Seigneur, regarde comment tu sais que tu fais en Indonésie. Nous voulons voir les mêmes choses. Mais dans l'humilité et dans l'amour, pas dans un esprit de rivalité, de concurrence. Parce que c'est le même Seigneur qui est avec nous, c'est le même qui est là-bas. Il connaît les réalités, pourquoi il a agi là-bas ainsi, pas chez nous encore. Mais ce n'est pas mauvais de dire, Seigneur, nous voulons vivre cette gloire-là. Prépare-nous, travaille-nous. Si on a encore des choses en nous qui empêchent que tu agisses ainsi, change cela. Mais on ne doit pas faire ça dans un esprit de rivalité pour montrer que les chrétiens de France sont meilleurs que les chrétiens de Suède. Non. Parce que c'est nos frères, nos sœurs, nous sommes dans le même corps. S'ils souffrent, nous aussi on souffre. S'ils sont bénis, nous sommes bénis. Mais combien nous sommes bénis aujourd'hui lorsque nous regardons les films des chrétiens persécutés? On est bénis parce que quand on voit leur résistance, ça nous pousse, nous ici, non seulement à résister, mais à avancer parce que nous, on n'a pas les mêmes barrières qu'eux. On est bénis. Leur souffrance est une bénédiction pour nous. Beaucoup d'entre nous sont maintenus vivants à cause du fait qu'ils sont en relation avec les chrétiens persécutés. Leur exemple devient moteur pour nous. C'est ce que Paul est en train d'expliquer là. On n'est pas seulement bénis parce que un évangéliste américain vient en France louer un stade et prêcher. On est bénis lorsqu'on apprend qu'un petit Éthiopien, à cause de l'évangile, il a été emprisonné. Et en prison, Dieu, par sa puissance de miracle, il a brisé les chaînes de la prison. Et le chef de la prison a été impressionné. Il a fait de ce petit-là un des gardiens. Et il a voulu se convertir. Quand on apprend ça, on est autant content que lorsque un évangéliste, je ne sais de quel pays, réunit les gens dans un stade pour sauver les âmes. C'est la même joie qui nous anime parce que c'est le même esprit qui agit en Éthiopie avec un petit chrétien, un jeune chrétien, et aux États-Unis avec un homme très connu. C'est le même esprit qui agit et nous nous en réjouissons. Il n'y a pas de comparaison à faire puisque nous sommes dans le même corps. C'est comme si c'est nous qui agissions parce que c'est le même corps. C'est pourquoi, bien-aimés, nous clôturons en disant que chacun respecte son rôle et accepte son rôle et respecte le rôle de l'autre. Nous n'avons pas tous le même rôle, nous n'avons pas tous les mêmes dons. Acceptons notre place. C'est Dieu qui agit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas un homme qui élève, c'est Dieu qui agit. Respectons nos places, respectons notre rôle. Et il est écrit au verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Verset 29, « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » Paul veut dire, mais est-ce que tous, ils font les mêmes choses? Non. Il y en a qui parlent en langue, il y en a qui prophétisent, il y en a qui interprètent. Il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont apôtres. mais que chacun accepte son rôle parce que son rôle est efficace dans le corps de Christ. Et son rôle a été déterminé par Dieu. Il y en a qui veulent vivre sans autorité. On ne peut pas vivre sans autorité. C'est le rôle de chacun dans le corps. Le bras est comme l'autorité des doigts. Le bras est obligé de bouger, de s'approcher pour que les doigts fassent quelque chose. Même l'ordre qui vient du cerveau, il passe par le bras pour atteindre les doigts. Que chacun respecte son rôle, c'est ce qui permettra que le corps marche à l'unisson. Imaginez qu'une jambe veuille aller à gauche, une autre à droite, mais ça va faire quoi? Respectons chacun le rôle. Imaginez qu'on cherche à marcher maintenant avec les mains, ça va faire quoi? Tu vas faire 500 mètres en 2 heures. Il faut marcher avec les jambes. Chacun a un beau rôle. Parce que c'est un don de Dieu. Et tous les dons de Dieu sont magnifiques. Ils sont beaux. Bien-aimés, ne soyons pas tentés par l'isolationnisme. Par le fait de s'isoler, même en pensée. On peut être ensemble physiquement, mais en réalité, tu es seul. Ne soyons pas tentés de faire solo. Faisons les choses ensemble avec le corps du Christ. Dieu nous a placés dans un corps et nous avons besoin de ce corps-là. Et dans ce corps, chacun a son rôle. Ne négligeons pas cela. Respectons le Seigneur qui a placé les choses ainsi et nous verrons la gloire de Dieu. Comprenons que le rôle de chacun va nous édifier, nous. Ne croyons pas avoir le rôle le plus important. C'est Dieu qui a le rôle le plus important. C'est écrit dans Éphésiens au chapitre 1er que c'est Jésus qui est le chef, la tête de l'Église. C'est lui qui a le rôle le plus important. Dans Éphésiens 4, c'est lui encore qu'il a établi les apôtres ainsi de suite, les docteurs, pour conduire le peuple de Dieu. Mais lui-même, Jésus, c'est lui qui relie tout ça. C'est lui qui a le rôle le plus important. Et donc que chacun ait une vraie relation avec Jésus-Christ. Et Jésus le conduira à vivre le corps. Mais n'ayons pas une relation égoïste avec le Seigneur qui nous ramène toujours à savoir qu'est-ce qu'il nous donne, nous, à nous, à nous, à nous. Non, ayons la vraie relation où Jésus dit, là où je suis, c'est là qu'est mon serviteur. Le serviteur de Jésus suit Jésus. Il ne dit pas à Jésus, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Il dit, Jésus, où es-tu? Là où tu es, c'est là que moi je suis aussi. C'est ce que le serviteur du Seigneur doit être. Il ne doit pas être là à dire, « Mais Jésus, je pense que tu aurais dû donner le don de prophétie à Jacob et le don de prédication à Germain. » Non, non, non. Il est là à dire, « Merci Jésus pour ce que tu as fait parce que tu es sage, tu es juste et tu fais ce qui est bien. Et j'accepte le don que tu as donné à tel. C'est pour l'édification de nous tous. Restons bien-aimés unis en esprit. Le diable est rusé, il est malin. Il va te faire croire que toi, seul, tu peux le vaincre. Après, tu vas amener la coupe montrée à tous les autres. Et c'est que dès que tu seras seul, tu seras impuissant face à lui. Et il va te détruire comme il faut. Dieu nous a donné une grande sécurité, le corps du Christ. Demeurons dans ce corps et nous porterons beaucoup de fruits. Beaucoup de textes parlent de cela, Jean 15 aussi. Demeurons dans le corps. Jésus dit, je suis le tronc, vous êtes les branches. Une branche qui est coupée ne porte plus de fruits. Cherchons l'intérêt de l'autre. Et le Paul nous dit, aspirons aux dons. Le meilleur, 1 Corinthiens 13, c'est le don le meilleur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne cherche point son intérêt. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. C'est cet amour qui fera que nous vivions vraiment unis pour servir le Seigneur, considérant l'utilité de chacun dans le corps du Christ. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à sortir du piège du diable qui veut qu'on joue le jeu en solitaire. Et il sait que lorsqu'on est seul, il peut nous glisser toutes sortes de choses et il n'y a personne pour nous défendre. Seigneur, l'égoïsme s'est installé au milieu des enfants de Dieu. Chacun pense à lui-même. Quel intérêt il retirera de telles choses, de telles réunions de prière, de tels moments. On ne pense pas à tes projets, Seigneur. On ne pense pas à toi, mais on pense à soi-même. Aide-nous, Seigneur, à penser à toi. Quelle est ta volonté? Aide-nous à penser aux autres, car il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, à faire certaines choses pour les autres. D'ailleurs, ce que tu as placé en nous, c'est pour les autres, Seigneur. Merci de te manifester dans le nom de Jésus-Christ.